Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ». Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une authentique « First Lady », comme on dit maintenant en France un peu trop facilement, la « First Lady du crime », « First Lady of Crime », comme disent nos amis anglais, Agatha Christie.
Oh, vous vous rappelez ces actions que Sandy Hackett m'avait conseillé d'acheter?
Des actions, lesquelles?
Celles du groupe minier australien Yellow Creek. Il paraît que la société aurait découvert un filon extraordinaire.
Alors là, vous m'étonnez. Elles sont tombées à 5 shillings.
Et même 3 shillings 6 en clôture. Mais je croyais que vous ne vous intéressiez pas à la cote.
En effet, Hastings, mais je m'intéresse à la psychologie. Et M. Hackett est ce que j'appelle un incorrigible optimiste. La seule fois que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, il m'a assuré avec une grande certitude qu'il ne pleuvrait pas ce jour-là parce qu'il se rendait à une garden party.
En effet, je me rappelle, et il est tombé des cordes.
Agatha Christie, c'est un phénomène extraordinaire. Si vous avez la curiosité de regarder votre programme de télévision pour la semaine, je serais surpris que vous ne trouviez une seule journée où il ne soit pas retransmis ou une aventure d'Hercule Poirot ou une aventure de Miss Marple, tellement les séries tirées des romans d'Agatha Christie fleurissent dans toutes les télévisions du monde et pas seulement les télévisions anglaises. Mais revenons à Agatha Christie. Elle est née en 1890 dans une famille bourgeoise de bonne tenue, si j'ose dire. Son père meurt, elle est assez jeune, et sa mère essaie de faire comme toutes les mamans anglaises d'une certaine société, de caser sa fille, de lui trouver un bon mari. Ce sera chose faite assez vite. Mais quand on pense que cette jeune fille de bonne famille a tiré des livres à plus de 2 milliards d'exemplaires, qu'elle a été traduite dans 73 langues pour 153 pays, et que Presque 30 ans après sa mort, elle continue à tenir l'affiche. On peut se poser la question, qu'avait-elle donc de si particulier ? Notons aussi que Agatha Christie a écrit 20 pièces, dont l'une, si vous allez à Londres, ne loupez pas l'occasion, dont une est un phénomène extraordinaire. Ça s'appelle La Souricière. Ça a été créé en 1952 et depuis c'est joué tous les soirs sans discontinuer. Depuis donc, je répète, 1952, c'est le seul exemple au monde où une pièce est un succès aussi durable et qui ne se dément pas. D'autant plus que la pièce est une intrigue policière, bien sûr, avec Agatha Christie, il serait difficile qu'il en soit autrement. Les gens qui l'ont vu une fois, en principe, ils savent qui a fait le mauvais coup. Je ne vous donne pas l'intrigue de la pièce, je vous laisse le soin de découvrir vous-même. Bon, mais c'est quand même, cela n'empêche pas les gens de revenir. Pourquoi ? Ben, c'est un peu peut-être le mystère, certains n'hésiteront pas à dire le miracle, Agatha Christie. Je crois que dans tous les livres d'Agatha Christie, il y a une chose très importante. C'est ce que les Anglais appellent « whodunit », c'est-à-dire qui a fait, qui a commis le crime. Beaucoup plus que le « pourquoi a-t-il commis ce crime ?» Et ça nous entraîne dans des intrigues parfois d'un compliqué à faire pâlir d'envie tous les égyptologues de France, de Navarre et d'ailleurs. Il y a aussi une chose, une constante chez Agatha Christie. Elle est le produit de l'Angleterre victorienne, même si Victoria l'a assez peu connue finalement, mais pour elle, il est impensable que le crime soit payant. Le crime ne paie pas chez Agatha Christie et les coupables sont toujours punis, souvent sévèrement. Paradoxe, c'est vrai que le crime ne paie pas chez Agatha Christie, sauf pour Agatha Christie elle-même qui reconnaissait avec jubilation qu'elle était la personne au monde à qui le crime avait rapporté le plus d'argent. Bon, disons qu'elle est née Agatha Miller et avant la guerre de 14, elle fait la connaissance dans un bal d'un beau sous-lieutenant qui s'appelle Archibald. Archibald, même pour un anglais, c'est pas difficile à dire, donc il s'est devenu Archie. Archibald Christie. Coup de foudre, danse, ils font du surf ensemble, sont des sportifs tous les deux, de la natation, et évidemment, tout se conclut devant Monsieur le maire. Pendant la guerre, quand en 1914, la Grande-Bretagne entre en guerre contre l'Allemagne, le mari d'Agatha Christie, le jeune mari d'Agatha Christie, est envoyé sur le front, il est aviateur, et Agatha Christie, qui veut absolument être utile, s'affilie à une antenne de la Croix-Rouge, devient infirmière et, le détail n'est pas sans importance, elle apprend à manipuler toutes les drogues qui sont à sa disposition dans la pharmacie de la Croix-Rouge et elle saura s'en souvenir quand il faudra que ces assassins utilisent l'arsenic, la strychnine et autres délicatesses qui en général aident les gens à passer tranquillement de vie à trépas. Et très vite, Agatha Christie commence à écrire et je voudrais prendre une première pause et vous demander d'écouter un comédien que presque tout le monde connaît, David Suchet, qui est le Hercule Poirot, des aventures d'Hercule Poirot à la télévision actuellement. David Suchet, qui comme son nom ne l'indique pas, est britannique, anglais plus exactement. Il est d'ailleurs né à Paddington, à côté de Londres, et ce David Suchet va se faire une célébrité internationale en incarnant un petit détective belge appelé Hercule Poirot. Je vous propose d'écouter David Suchet dans les débuts d'une nouvelle d'Agatha Christie, l'express de Plymouth.
Alex Simpson, RN, stepped from the platform at Newton Abbot into a first-class compartment of the Plymouth Express. A porter followed him with a heavy suitcase. He was about to swing it up to the rack, but the young sailor stopped him. Leave it on the seat. I'll put it up later. Here you are. Oh, thank you, sir. The porter generously tipped, withdrew. Doors banged. A stentorian voice shouted,
Plymouth only! Change for Torquay! Plymouth next stop!
Alex Simpson passa du quai à Newton Abbot dans le premier compartiment de première classe de l'Express de Plymouth. Un porteur le suivait avec une valise très lourde. Il était sur le point de la mettre dans le filet lorsque le jeune porteur lui l'arrêta et lui dit « Oh non, laissez-la sur le siège, je la mettrai plus tard. Vous voici arrivé. Merci, sœur. » Avec un pourboire généreux, le porteur se retira.
Thank you.
Nous venons d'entendre le début de l'Express de Plymouth, où va jouer le premier rôle un insupportable petit bonhomme belge qui s'appelle Hercule Poirot, et qui fait partie de ces personnages entrés dans la légende, presque aussi connus que Sherlock Holmes ou Miss Marple, autre personnage emblématique d'Agatha Christie. Et on entendra au passage que, tout comme Sherlock Holmes et Dr. Watson, Hercule Poirot habite à Londres avec son complice habituel, Hastings. Et voici le premier portrait qu'on ait de Hercule Poirot, dans un des premiers romans où il joue un rôle. Poirot était un être au physique peu commun. Malgré son petit 1,62 m, il était l'image même de la dignité. Son crâne affectait la forme d'un œuf et il tenait toujours la tête légèrement inclinée d'un côté. Sa moustache cirée lui donnait un air martial. Le soin qu'il apportait à sa tenue était absolument incroyable, et je pense qu'il eut davantage souffert d'un grain de poussière sur sa veste que d'une blessure par balle. Agatha Christie reconnaîtra plus tard qu'elle a eu beaucoup de mal à se débarrasser d'Hercule Poirot. Elle n'arrivait plus à échapper à ce personnage, et à la fin de sa vie, elle écrivait même « Il doit avoir presque 118 ans, je n'arrive pas à le tuer, il est bien trop intelligent. » Ok. Revenons à Agatha Christie, qui, après la guerre, donc, mène une vie de bonne anglaise, bien comme il faut, et qui commence à être connue comme écrivain, même si les Français ont mis un peu plus de temps pour publier les romans d'Agatha Christie, puisque le premier roman d'Agatha Christie traduit en français l'a été en 1932, et c'était « La mystérieuse affaire Stiles ». Entre-temps, Agatha Christie fait connaissance avec une des réalités de l'existence. Son beau sous-lieutenant, devenu colonel, est allé voir ailleurs quelle saveur avaient les prairies interdites de l'adultère, et Agatha Christie le prend très mal. Mais je vous propose une première page musicale. En 1926, éclate un incroyable scandale qui va prendre des allures de problème national. Le 3 décembre 1926, Agatha Christie disparaît. On sait que c'est disputé la veille avec Archie, à qui elle refuse le divorce, parce que Archie voudrait bien se marier avec sa maîtresse du moment, ce qu'il fera d'ailleurs. Et le 3 décembre, Agatha Christie disparaît complètement. Elle va disparaître pendant 11 jours. Elle commence à être connue comme écrivain. les journaux s'emparent de l'affaire et Archibald Christie devient l'homme infidèle le plus célèbre de Grande-Bretagne. Peut-être serait-il passé de cette forme de publicité. Et puis un beau jour, deux musiciens de jazz viennent dire qu'ils ont reconnu Agatha Christie dans un hôtel du Yorkshire. Et Agatha Christie revient à la maison. Elle s'était inscrite à l'hôtel sous le nom de Teresa Neal, Neal étant le nom de la maîtresse de son mari. À aucun moment, elle ne voudra expliquer pourquoi elle est partie. Toute sa vie, elle a refusé de le dire et les journalistes curieux en sont restés sur leur faim. Cela dit, petit à petit, la vie reprend ses droits et au cours d'un voyage au Moyen-Orient, elle adore l'Égypte. Agatha Christie, qui est divorcée, qui a accepté finalement le divorce tout en conservant son nom de femme mariée, rencontre sur des terrains de fouilles un tout jeune archéologue qui s'appelle Max Mallowan. Et petit à petit, entre ces deux êtres, l'un assez réservé, on va dire timide, l'autre, Agatha Christie, encore échaudée par sa récente mésaventure avec Archibald, petit à petit, ces deux êtres vont se retrouver et évidemment, cela va aboutir à un mariage. Un journaliste a écrit à propos de ce mariage, c'est formidable d'épouser un archéologue, plus vous vieillissez, plus vous devenez intéressante. On a attribué le mot à Agatha Christie, il n'est pas d'elle, mais enfin bon, c'était assez amusant. Et Agatha Christie va continuer donc sur sa lancée d'auteur à succès. Déjà très vite, le cinéma va s'emparer de ses œuvres. Je vous ai cité tout à l'heure quelques interprètes qui ont joué le rôle d'Hercule Poirot, donc David Suchet le plus connu actuellement, mais il y a eu Charlton, Albert Finney, Peter Ustinov et peut-être combien d'autres dont on a perdu un peu la mémoire. Et c'est vers cette époque-là que Agatha Christie va écrire un de ses romans le plus célèbre. Un de ses romans le plus célèbre et qui, adapté au cinéma, a eu un succès phénoménal en 1974, c'est Le Crime de l'Orient Express. Pour le plaisir, je vous rappelle, si vous ne l'avez vu, la distribution du film de Sidney Lumet. Il y a Albert Finney, Jean-Pierre Cassel, Ingrid Bergman, Vanessa Redgrave, Sean Connery, Jacqueline Bisset, Anthony Perkins, Lauren Bacall, Richard Widmark, Michael York, John Gielgud, Martin Balsam. Une affiche à faire rêver tous les producteurs d'Hollywood, de la Cinecittà ou autres organismes nationaux. Au passage, lors de la première du film, à Londres, la reine d'Angleterre en personne était présente aux côtés d'Agatha Christie. Je répète, c'est sans doute le film adapté d'une œuvre d'Agatha Christie qui a eu le plus de succès, même si deux autres films consacrés à Hercule Poirot, notamment Mort sur le Nil avec Peter Ustinov, ont eu un succès, disons, plus qu'honorable. Il est vrai qu'aux côtés de Peter Ustinov qui jouait Hercule Poirot, il y avait Mia Farrow, Bette Davis et autres stars hollywoodiennes. Et si l'on continue, on arrive à la parution de ces romans les plus célèbres dans le monde entier, peut-être les plus traduits, avec notamment un qui m'amuse toujours beaucoup, parce que au départ, il s'appelait « Les 10 petits nègres ». Les éditeurs ont trouvé que « Petit nègre », ça faisait un peu raciste. Ils ont changé pour les 10 petits indiens. Je ne vois pas très bien ce qu'il y a de moins raciste dans les 10 petits indiens que dans les 10 petits nègres. Et ce film, ce roman, pardon, a eu un succès considérable. Il a été adopté plusieurs fois au cinéma, et notamment une fois avec Stéphane Audran. Je voudrais à présent vous inviter à écouter l'un des personnages inséparables d'Hercule Poirot, puisqu'ils habitent dans le même appartement meublé à Londres. Je veux dire le capitaine Hastings. Hastings qui se moque constamment d'Hercule Poirot et en même temps ne peut pas se séparer de lui. Et dans la série qui est diffusée le plus souvent à la télévision, c'est l'acteur britannique Hugh Fraser qui joue le rôle de Hastings. Je voudrais vous demander de l'écouter dans le début d'une nouvelle de Agatha Christie, Double Sin, double péché.
Double Sin. I had called in at my friend Poirot's rooms to find him sadly overworked. So much had he become the rage that every rich woman who had mislaid a bracelet or lost a pet kitten rushed to secure the services of the great Hercule Poirot. My little friend was a strange mixture of Flemish thrift and artistic fervour. He accepted many cases in which he had little interest, owing to the first instinct being predominant. He also undertook cases in which there was little or no monetary reward, sheerly because the problem involved interested him. The result was that, as I say, he was overworking himself. He admitted as much to himself, and I found little difficulty in persuading him to accompany me for a week's holiday to that well-known South Coast resort, Ibermouth.
Et je vous lis rapidement en français ce que vous venez d'entendre. J'avais appelé mon ami Hercule Poirot chez lui pour le retrouver follement surchargé de travail. Il était devenu tellement une coqueluche que chaque femme riche qui avait perdu son bracelet ou qui ne savait plus où était passé son petit chat préféré, se précipitait pour s'assurer ses services, les services du grand Hercule Poirot. Mon petit ami était un étrange mélange de prudence flamande et de flamme artistique. Il acceptait beaucoup d'affaires pour lesquelles il n'y avait pas un intérêt très important, mais simplement parce que son instinct le lui disait. Il avait aussi pris en charge des affaires où il n'y avait pas grand-chose à gagner ou même rien du tout, simplement parce que le problème posé l'intéressait. Le résultat était, ainsi que je l'ai dit, qu'il était surchargé de travail. Il admettait lui-même, et je n'ai eu pas beaucoup de difficultés à le persuader de m'accompagner pour un week-end de repos sur la ville de Cure, très connue de la côte sud, Ibermouth. Je voudrais revenir deux secondes sur le roman et le film dont j'ai parlé tout à l'heure, Le crime de l'Orient Express. Je me garderai bien de vous révéler l'intrigue, mais simplement, visiblement, cette histoire s'inspirait d'un événement qui avait bouleversé le monde entier, l'enlèvement du petit Lindbergh, du fils de l'aviateur Lindbergh, une icône dans le monde entier, et qu'on avait retrouvé assassiné peu de temps après. Donc Agatha Christie est peut-être, probablement, partie de cette histoire-là, et on le lui a beaucoup reproché, dans la mesure où peut-être, pour certains, cela rappelait des souvenirs pénibles. Cela n'empêcha pas le livre d'avoir un succès considérable, et le film, en 1974, c'est-à-dire presque 30 ans après, un succès encore plus considérable. Revenons, si vous le voulez bien, à Agatha Christie. Elle est à présent fort dignement et fort officiellement mariée à M. Callaghan, à Max. Régulièrement, elle suit son archéologue d'époux sur les lieux de fouilles. Elle participe aux fouilles. Elle prend beaucoup de photos. Et d'après les souvenirs qu'on a, elle a été assez bien acceptée par les équipes qui accompagnaient l'archéologue. Même si tous les soirs, très lady, elle s'habillait en tenue de soirée, et si tous les après-midi, entre deux séances de fouilles et quatre séances de photographie, elle s'asseyait à sa table et écrivait. Elle avait attrapé le virus de l'écrivain, un virus qui ne allait ne pas la lâcher jusqu'à la fin de ses jours. Je vous propose de nous écouter sur une dernière plage musicale.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Thank you.